bonsoir à tous. Alors, comme vous le savez, nous sommes ce mois-ci sur le thème de Dieu est esprit. Donc Hélène et Gérald ont introduit ce thème, donc les deux dimanches précédents, en prenant cette révélation que Jésus a faite à la femme samaritaine, que Dieu est esprit. Voilà, donc Jean 4, 24, voilà ce que nous dit Jésus. Enfin, ce que révèle Jésus à cette femme, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'apôtre Paul déclare également que Dieu est esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce qu'être esprit ? Alors, le dictionnaire définit le mot « esprit » comme un être immatériel, incorporel, une réalité invisible. Alors, le mot « esprit » dans les Écritures, c'est « roi » en hébreu et « pneuma » en grec. Et ces mots veulent dire « le vent, le souffle, l'air ». On reprendra ces notions d'air et de vent durant ces différents partages. Donc, dire que Dieu est esprit, c'est déjà dire que Dieu est incorporel et invisible. C'est ce que va confirmer Jésus quand, après sa résurrection, je ne sais pas si vous vous souvenez, il se présente à ses disciples et voilà ce qu'il va leur dire. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Alors c'est vrai qu'on peut se dire, moi je me suis dit, il y a une contradiction un petit peu entre les propos de l'apôtre Paul qui nous dit que le Seigneur c'est l'esprit, là Jésus qui nous dit qu'il est corporel. J'aimerais qu'on prenne, pour nous éclairer, ce passage dans Philippiens, au chapitre 2, versets 5 à 8. Ce sont les propos, une déclaration de l'apôtre Paul. Voilà ce qu'il nous dit. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Dans son immense amour, Dieu s'est incarné en la personne de Jésus. Il a pris la forme d'un homme, d'un serviteur, pour se révéler au monde et accomplir le plan de salut pour l'humanité. Alors, j'ai trouvé une illustration, je ne sais pas, Naomi est là-bas, ouais, c'est pour toi Naomi, enfin, c'est pour nous tous, mais un petit clin d'œil pour toi, toi qui aimes les activités, les illustrations. J'ai trouvé une illustration en fait qui m'a parlé et voilà, je vais vous la partager. Si je prends l'exemple de l'air est invisible, il est présent partout. Maintenant, si je prends ce vase et que je mets un couvercle dessus, alors l'air qui est à l'intérieur du vase a pris, vous êtes d'accord avec moi, la forme du vase. Eh bien, Jésus, c'est Dieu qui a pris la forme d'un homme. Et quand Jésus meurt à la croix, qu'il ressuscite et qu'il retourne au Père dans la gloire céleste, eh bien, c'est comme si ce vase, il explosait et que l'air qui est à l'intérieur reprend sa forme initiale et est à nouveau présent partout. J'ai trouvé que cette illustration était parlante, en tous les cas pour moi. Et en fait, à son ascension, Jésus a abandonné sa forme d'homme pour reprendre sa forme de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que Jésus est vivant, qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour chacun de nous. Ça, on peut le retrouver dans Romains 8, 34. Dieu est esprit, il est incorporel et invisible. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul toujours. Il est l'image, donc il s'agit de Jésus, hein, il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Jean nous dira, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors s'il est vrai qu'on ne peut pas voir Dieu avec nos yeux humains parce qu'il est invisible, il n'en reste pas moins qu'il existe, qu'il se révèle et qu'il agit. Et là, je vais prendre l'exemple du vent, c'est comme le vent, on ne le voit pas, pourtant il existe. Et quand il souffle dans un arbre, on voit l'arbre bouger, on voit les feuilles qui bougent. Ça, c'est l'œuvre du vent. C'est ce que le vent fait. Jésus prendra également cet exemple du vent pour parler du Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus dira à Nicodème quand il lui parle de la nouvelle naissance. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Dieu est esprit. Il est comme le vent. Il souffle où il veut. Il est souverain. Il souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Tu ne vois pas. Il est invisible, mais tu en entends le bruit. Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est insondable. Et en même temps, il apporte la vie. Il vivifie. Ecclésiaste nous dit, encore, il prend également cet exemple du vent. Tu ne sais pas où va le vent, ni comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte. Tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit, lui qui fait tout. Et je me suis dit que c'est vrai que si nous ne savons pas toujours comment Dieu agit, comment il va agir dans telle ou telle situation pour laquelle nous prions, je crois qu'il est important de se rappeler et de croire que Dieu agit toujours.
Amen.
Dieu est esprit, il est donc incorporel, invisible, pour autant agissant, et il est omniprésent. Il n'est pas limité par un lieu. Il peut être à plusieurs endroits en même temps. Voilà ce que nous dit David. C'est un extrait du psaume 139, hein, verset 7. Voilà ce que dit David. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends en séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, David pas dit « ton esprit ». Donc, il ne s'agit pas de n'importe quel esprit, mais c'est l'esprit du Dieu vivant qui est omniprésent. Et on y reviendra. Dieu est présent partout, en même temps, par son esprit. Et c'est vraiment une révélation que David a eue. On le voit dans ses propos. Ce n'est pas juste de la théorie, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'il a expérimenté. C'est une réalité pour lui, et je crois que c'est important aussi pour nous que toutes ces notions qui peuvent sembler abstraites aussi, parce que vous allez voir, on en a d'autres, comme celle-ci, il ne faut pas que ce soit juste quelque chose de théorique, mais je crois que Dieu veut vraiment qu'on expérimente tous ces attributs. En préparant ce message, je me suis souvenue d'une expérience que j'ai faite, c'était au début de notre conversion avec Christophe, où j'ai vraiment expérimenté cette omniprésence de Dieu. Ma sœur, à l'époque, avait de gros problèmes psychologiques avec des enfants en bas âge, en plus. Donc, c'était très compliqué. Ça générait beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes autour. Et à chaque fois qu'il se passait quelque chose, ma mère m'appelait. Avec Christophe, on prenait la voiture, on allait la voir. On était à 1h30 de route. Et voilà, et ça, on faisait comme ça. Et puis, un jour, ma sœur est partie du jour au lendemain sans prévenir. Donc en fait, pendant des mois, on n'a pas su où elle était. On savait qu'elle était vivante, parce qu'elle avait quand même gardé contact avec une personne, mais par contre, on ne savait pas où elle était. Et là, à ce moment-là, je me suis souvenue que j'ai vraiment pris peur. Parce que je me disais que... Alors, c'est une fausse impression. Parfois, on a des conceptions un peu fausses comme ça, et c'est confronté à une situation qu'on se rend compte qu'on est complètement à côté. Et là, c'était le cas. En fait, quand c'est arrivé et que j'ai pris peur, j'ai réalisé que j'avais l'impression qu'en allant la voir, qu'en ayant quand même le regard sur elle, de loin et un peu de près, j'avais l'impression d'avoir un certain contrôle sur la situation. Alors qu'en fait, pas du tout, pas du tout. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que seul Dieu pouvait la protéger. Parce que non seulement lui savait où elle était, mais en plus, il pouvait être à ses côtés. Et c'est là que j'ai fait intervenir ma foi. J'ai mis ma foi à ce moment-là en ce Dieu invisible et omniprésent. Je lui ai confié vraiment ma sœur, et je lui confiais régulièrement. Et ça m'a vraiment enlevé une angoisse et un fardeau qui était énorme. J'ai été rassurée parce que je croyais que Dieu veillait sur elle. Et c'est ce qu'il a fait. L'Esprit de Dieu est omniprésent. Il peut être partout en même temps, là où je ne peux pas être. C'est vrai que c'est rassurant pour nous de savoir effectivement que Dieu est là, présent avec nous ce soir, mais qu'il est aussi avec nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir. Il est aussi avec nos familles, avec nos enfants. Hein, quand on est parent, qu'on a des grands-enfants, on les a plus sous les yeux, n'est-ce pas? Mais c'est bon de savoir que Dieu est auprès d'eux, auprès de nos parents. Donc l'Esprit de Dieu est omniprésent, il peut être partout en même temps, là où je ne peux pas être, comme je le disais. Et ça me permet aussi, du coup, de l'invoquer, quel que soit le lieu où je me trouve. Hein, que ce soit là, ce soir, au culte le dimanche, à la prière le samedi, que ce soit dans ma chambre, dans ma voiture, en vacances, Dieu est accessible par son Esprit. Et c'est ce que Jésus, d'ailleurs, dira à cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4 versets 21 à 24. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » David nous dira également que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Jésus nous dira également que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, dans le nom de Jésus bien sûr, je suis au milieu d'eux. Dieu ne regarde pas au lieu, mais il regarde au cœur. Il s'approche de celui qui espère en lui. Et en fait, c'est la foi, c'est ma foi qui va me permettre de rencontrer ce Dieu invisible, d'entrer dans ses réalités spirituelles, dans son royaume et aussi de saisir ses promesses. C'est ça la foi. Voilà ce qu'est la foi. J'ai pris la version parole de vie. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Donc j'ai pris quelques exemples parce que j'étais trop tentée. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui en avait fait la promesse. Et pour finir, par la foi, il a quitté, donc là il s'agit de Moïse, par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Moïse n'a pas vu Dieu avec ses yeux humains, mais il les a vus avec les yeux de la foi. L'Esprit de Dieu est omniprésent, c'est une réalité spirituelle dans laquelle il nous faut entrer, que Dieu veut nous voir entrer dans cette réalité-là. Si l'Esprit de Dieu est près de ceux qui l'invoquent sincèrement, les Écritures nous disent qu'il vient aussi habiter dans le cœur de tous ceux qui croient en Jésus et qui l'ont reçu comme leur sauveur personnel. C'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Voilà ce que nous dit Romains chapitre 5, verset 5. Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons par la foi eu accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Et nous mettons notre fierté dans l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Que la persévérance produit le courage dans l'épreuve et que le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Amen. Et à partir de là, c'est toute une œuvre de régénération et de transformation à l'image de Christ qui se fait dans le croyant. L'Esprit de Dieu est omniprésent et il est aussi saint. En grec, le mot saint, c'est le mot agios. Je le prononce très certainement mal, mais je le dis comme ça. Et qui veut dire consacré. Sa racine, agnos, signifie pur de toute souillure, de toute faute. En hébreu, c'est le mot kodesh qui signifie séparé, mis à part. Le titre Saint-Esprit, agios pneuma, se rencontre 92 fois dans le Nouveau Testament. Quant à l'Ancien Testament, trois fois il nous est parlé, non pas du Saint-Esprit, mais de l'Esprit-Saint. L'Esprit de Dieu est appelé spécifiquement le Saint-Esprit. Et en fait, c'est ce caractère saint, pur de toute souillure, qui va le démarquer, qui va le séparer d'avec tous les autres esprits. Que ce soit l'esprit de l'homme, l'esprit humain, que ce soit les mauvais esprits, que ce soit Satan, que ce soit les anges. C'est son Esprit Saint qui le sépare de tous ces autres esprits. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important, on va y revenir aussi. Alors, j'ai répertorié tous les autres noms qui sont attribués au Saint-Esprit, et que l'on trouve dans les Écritures. Alors, ils sont nombreux, hein. Alors, j'ai juste noté les références, je ne vais pas lire les références, bien sûr, ce serait trop long. Voilà comment l'Esprit de Dieu est appelé dans les Écritures. L'Esprit, dans les Corinthiens 10. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de Christ, l'Esprit de son Fils, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit qui consume, l'Esprit de sainteté, le Saint-Esprit de la promesse, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie. Et puis vous allez reconnaître l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, que l'on trouve dans la prophétie d'Ésaïe, qui annonce la venue du Messie. Ésaïe 11, chapitre 1 et 2, voilà ce qui nous est dit. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, hein, il s'agit du Messie. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'Esprit de Dieu était aussi appelé l'huile de joie, l'Esprit de la grâce, l'Esprit de gloire, l'Esprit éternel et le Consolateur. Voilà, je voulais quand même vous les amener. Bon, je l'ai fait un petit peu en dernier, ça, mais je voulais quand même vous les donner. Alors, l'un des autres attributs de l'Esprit de Dieu est qu'il est omniscient. Il connaît tout, rien ne lui est caché. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, voilà ce que l'apôtre Paul dit. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Amen. Le Saint-Esprit est omniscient et c'est lui, en fait, qui nous donne de connaître et de comprendre les choses de Dieu. J'aimerais qu'on relise le psaume 139, mais dans son entier, parce que vraiment là, on se rend compte que David a eu non seulement une vraie révélation de l'omniprésence de Dieu, mais également de l'omniscience aussi, de Dieu et de son esprit. Voilà ce que nous dit le psaume 139, voilà ce que dit David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée. Savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là, on l'a lu. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait. Ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareils. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonnée et tissée comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains du sable sur les bords de la mer. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Voilà ce que nous dit David sur ça. Magnifique, magnifique, et je trouve que vraiment il a eu vraiment une révélation en fait de l'esprit de Dieu, de son omniscience, de son omniprésence, et c'est vrai que l'esprit de Dieu est le seul à pouvoir me garder sur la voie de l'éternité, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle d'ailleurs David poursuivra au verset 23. Et dira, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Comment ne pas se confier en un tel Dieu? C'est ce qu'a fait David. Un autre attribut de l'Esprit de Dieu, c'est qu'il est omnipotent. Par sa puissance, on l'a entendu à plusieurs reprises dans les partages, il a participé à la création du monde. Voilà ce qu'il est dit au psaume 104. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Là, il s'agit des animaux. Hein. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Élie aussi, qui faisait partie des amis de Job, voilà ce qu'il dira dans Job 33:4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Par sa toute-puissance, l'Esprit de Dieu accomplit des signes, des prodiges et des miracles. Voilà ce qu'il nous est dit dans Romains au chapitre 15. En fait, si j'ose parler de quelque chose, c'est uniquement, donc ça c'est l'apôtre Paul qui dit ça, en fait, si j'ose parler de quelque chose, c'est uniquement de ce que le Christ a réalisé pour moi, pour amener ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait au moyen de paroles et d'actes, par la puissance de signes extraordinaires et de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par sa toute-puissance, l'Esprit de Dieu ressuscite les morts. L'apôtre Paul toujours nous dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Amen. Et puis les Écritures nous disent également que l'Esprit de Dieu est éternel. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. Donc là, en fait, on se rend compte que le Saint-Esprit possède les attributs de Dieu. En fait, ce qui démontre qu'il est aussi Dieu au même titre que le Père et le Fils. Et d'ailleurs, Dans l'histoire d'Ananias et Saphira, il nous est dit qu'il est Dieu. On va lire ensemble, c'est Pierre qui le dira, dans Actes au chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Le Saint-Esprit est Dieu. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et je dis ça parce que j'ai pensé aux attaques qu'on peut subir, des attaques des mauvais esprits, des attaques du diable. Quand le diable vient nous éprouver, je crois qu'il est important de nous rappeler qu'il est déjà vaincu et que son temps est compté. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il s'agit de Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Romains nous dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est important de se le rappeler. Dans ces moments-là, il est important aussi de se rappeler que rien ni personne ne peut nous empêcher de nous approcher de Dieu et de nous réfugier en lui. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. On était à une réunion l'autre fois ensemble avec le conseil, les prédicateurs plutôt, et effectivement, il a été rappelé que même une légion de démons n'a pas pu empêcher le démoniaque de Gadara d'accourir vers Jésus et de se prosterner. Amen. Devant lui. Jésus va alors chasser les démons, les envoyer dans les ports qui vont se noyer. Ça, c'est important de se rappeler ça quand nous sommes vraiment éprouvés par Satan. Il est important aussi, l'apôtre Paul nous dit aussi dans Romains que ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça aussi, c'est important. Rien ne peut nous empêcher de nous approcher de Dieu. Rien ni personne. Il est important aussi de souligner que le diable n'a pas les attributs de Dieu. Le diable n'est pas omniprésent. Jacques 4,7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus dans le désert, rappelez-vous. Il s'est soumis à Dieu. Il a résisté au diable et le diable a fini par le laisser. Il n'était plus présent à ce moment-là. Le diable n'est pas non plus ni omniscient, ni tout-puissant. Il est important aussi de se rappeler que dans ces moments-là, que Dieu nous a donné les armes spirituelles dont nous avons besoin pour mener et gagner ces combats spirituels. On a eu le témoignage autrefois de Lola, c'est ce qu'elle a expérimenté. Avec toute la puissance de Dieu, toute la puissance de l'Esprit de Dieu, et elle a gagné ce combat. Voilà ce que nous dit Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. avec les armes de Dieu, nous avons la victoire. Amen. Les Écritures nous disent que Dieu nous a même donné le pouvoir de chasser les démons, en son nom, par son esprit. Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Amen.
Amen. Alors, je vais terminer là ce partage. J'espère, enfin en tous les cas, moi, il m'a permis de reconsidérer toute la grandeur et toute la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en nous, qui agit pour nous et qui veut aussi agir au travers de nous. J'aimerais terminer par ce passage de l'apôtre Paul, toujours. Voilà ce qu'il dit. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Père Céleste, vraiment, je veux te remercier ce soir. Je te remercie pour ce partage que tu as pu nous communiquer. Et je te prie vraiment, Père, de continuer à te révéler à nos cœurs par ton esprit. Que vraiment, Seigneur, nous puissions réaliser vraiment toute ta grandeur et toute ta puissance. Et que nous puissions vraiment expérimenter, Seigneur, ce qu'est de marcher avec ton esprit, de vivre avec ton esprit, de combattre avec ton esprit, d'agir, Seigneur, autour de nous avec ton esprit. Alors merci vraiment de continuer à œuvrer dans nos cœurs. Merci aussi de continuer à œuvrer dans ce monde, parce que tu es vivant et tu continues, Seigneur, ton œuvre, tu continues ton œuvre de salut et tu continues à te faire connaître par ton esprit aux hommes. Et pour cela, je veux vraiment te rendre toute la gloire, Père Céleste. Amen.
Amen. Amen.